France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau débat autour de nos grands patrons. Ils devraient être les héros des temps modernes et pourtant ils sont les mal-aimés de la République. Moins d'un Français sur deux a une bonne opinion des chefs d'entreprise. Alors dans le pays de Robespierre, de Jaurès, le pouvoir et la richesse passent mal. A l'inverse, les dirigeants de PME bénéficient d'un capital de sympathie nettement plus élevé si l'on en croit les sondages. Grand patron, pourquoi tant de haine envers ces stratèges brillants et moteurs de croissance? Tavares, Bolloré, Sterrin, Arnaud, sont-ils trop bien payés avec des salaires indécents? Manque-t-il de patriotisme, de philanthropie? Devons-nous changer l'image que nous avons de nos gros patrons? Ou au contraire, doivent-ils se rapprocher des Français? Débat au-delà des clichés jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi. Paola Puerari.
Et nous n'avons pas choisi la date de ce débat par hasard, car c'est aujourd'hui que Antonio Filosa, le nouveau patron du groupe Stellantis, est officiellement intronisé. Alors, il sera un peu moins bien payé que Carlos Tavares, qui avait touché l'année dernière 23 millions d'euros, lui a baissé son salaire jusqu'à 18 millions d'euros, mais c'est quand même une somme pour beaucoup de Français. Et si elle vous choque, eh bien vous pouvez réagir sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Bernadette a déjà témoigné ce matin. Ses chefs d'entreprise perçoivent 50 000 euros par jour et dans le même temps, nos étudiants ont faim, faute de moyens financiers. Quelle indécence, où est l'éthique? Françoise aussi a son idée. Encadrer les salaires est un premier pas essentiel pour œuvrer à la paix sociale. Alors, j'aimerais lire aussi des messages d'auditeurs qui défendent les grands patrons, mais la vérité, c'est que nous n'en avons pas reçu, ce qui montre bien qu'il y a un léger désamour. En revanche, Laure nous a laissé une note vocale.
Quelqu'un m'a dit un jour qu'il était normal que les grands patrons soient bien rémunérés parce qu'ils prenaient beaucoup de risques. À titre personnel, je ne vois pas quels risques ils prennent, puisque quand ils plantent une boîte, non seulement ils partent avec un parachute doré, mais ils retrouvent très facilement du boulot.
Alors, on va en débattre autour de cette table, mais vous pouvez participer, chers auditeurs, au débat sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Si vous pensez que ces grands patrons sont au contraire des sauveurs de l'économie et qu'ils créent de l'emploi, vous nous envoyez vos réactions. Bonjour Vincent Beaufils.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la publication de Challenge, auteur d'un livre au titre un peu provocateur, Les patrons sont-ils des monstres, aux éditions de l'Observatoire, avec un sous-titre Cupide, mégalo, autocrate, narcissique, mercenaire, mais... Et vous allez finir ma phrase.
Mais tellement performant parce que, il faut le reconnaître, effectivement, ces grands patrons, parce que ce livre s'intéresse effectivement aux grands patrons qui sont les mal-aimés, plus que les petits patrons, et ils sont globalement très efficace.
Sophie de Menton, bonjour.
Bonjour.
Vous vous reconnaissez dans ce portrait, puisque vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous voulez rajouter un adjectif rapidement?
Un adjectif, non. Je suis juste embêtée parce que je ne suis pas un grand patron et que je ne gagne pas autant d'argent. J'aimerais beaucoup. ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que c'est la jalousie permanente.
Alors, on va y revenir. Je présente vos débatteurs. Thomas Vacheron, bonjour.
Bonjour.
Secrétaire confédéral de la CGT. Et Guillaume Robin, PDG du groupe Thermador. Que faites-vous en Isère, en un mot?
Nous sommes une société de distribution spécialisée, donc des produits techniques pour le bâtiment, l'industrie, les travaux publics. Voilà, à peu près 800 personnes, 500 millions de chiffre d'affaires, cotés en bourse.
Et vous pratiquez une politique salariale rare en France, l'affichage une fois par an du salaire de tous les collaborateurs. Vous allez nous en dire plus sur ce que j'ai appelé ce striptease salarial. Mais toujours est-il que c'est aujourd'hui, dans une heure, qu'il va y avoir cette assemblée extraordinaire pour le groupe Stellantis, avec les actionnaires qui vont devoir valider la rémunération du nouveau PDG. Je le rappelle, 18 millions d'euros pour un seul homme. Ça vous choque, cette rémunération, Vincent Beaufils?
Non, moi ça me choque pas. Je veux dire, je n'aime pas tellement votre terme indécent, mais ça choque l'opinion. Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est quand même bien plus élevé que la norme des grands patrons français. En moyenne, c'est 6 à 7 millions d'euros. On peut se dire que c'est déjà gigantesque. Mais c'est surtout qu'on a en France un problème avec un consensus social et l'entreprise. Et là, le visage des grandes entreprises, la première raison du désamour, elle vient de ces niveaux de rémunération qui sont trop élevés. Vous évoquez celle de Carlos Tavares, elle est allée jusqu'à 35 millions d'euros et c'était quelque chose qui n'était du jamais vu, c'était 500 fois plus que la rémunération médiane à ce moment-là chez Stellantis.
Alors, Thomas Vacheron, Vincent Beaufils n'aime pas ce terme indécent. Pour vous, c'est indécent un salaire de 18 millions d'euros pour une seule personne ?
Ce qui est indécent, c'est que la majorité de la population n'arrive pas à vivre de son travail. Aujourd'hui, le SMIC, et je le rappelle, puisque ça peut paraître très éloigné d'une partie de ceux qui sont présents, c'est 1425 euros net par mois. Le salaire médian, c'est-à-dire que la moitié des salariés de ce pays vivent avec moins de 2200 euros net. C'est de ça dont on parle. Vous avez fait le comparatif avec Monsieur Tavares qui a licencié et eu des sommes complètement astronomiques. Et en fait, la prime, elle n'est pas liée en fonction de l'effectivité, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est pas le talent qui est payé, c'est la profitabilité de l'entreprise pour les chefs d'entreprise et pour les actionnaires, jamais pour les salariés. La preuve, c'est que les entreprises qui font du bénéfice et qui licencient, beaucoup de profits pour le chef d'entreprise, beaucoup de profits pour les actionnaires. Et aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sont à la rue. Moi, je pense aux salariés de chez Michelin. Moi, je viens d'Auvergne et j'ai des collègues au Puy-en-Velay qui vont être licenciés alors que l'entreprise fait des profits, organise sa propre délocalisation pour faire du profit à tout prix. Et c'est ça, en fait, qui est indécent. C'est pas du tout une question philosophique. Nous, on n'est pas jaloux, on n'est pas opposé au succès. La question, c'est quand elle est faite au détriment des salariés, et c'est là qui est la discussion, c'est ça notre problème. La question, c'est pas ce que gagne un commerçant, un artisan, un patron qui lance sa boîte, c'est pas notre sujet. Mais là, on parle de milliardaires qui font du bénéfice sur la sous-traitance en cascade et la concentration
alors,
de richesses.
Alors, le groupe Stellantis, c'est 14 marques, dont PSA, Citroën, Fiat, Chrysler, Dodge. C'est un champion, le quatrième groupe automobile mondial. Sophie de Menton, est-ce que la vista d'un grand patron, ça vaut des millions ?
Alors, c'est très simple. On croit en l'économie de marché et en capitalisme, on n'y croit pas. L'économie de marché et le capitalisme, c'est des salaires libres. Là, je vous signale que le salaire dont vous parlez, il est voté en Assemblée Générale. Donc, c'est les actionnaires qui décident. C'est un système. Personnellement, il y a des salaires qui me semblent énormes. Mais bien qu'ils soient énormes et qu'ils puissent choquer, ce que je peux comprendre, c'est pas parce qu'on les supprimerait qu'il y aurait moins de pauvres. Le drame français, c'est de pas pouvoir payer correctement nos salariés. C'est un véritable drame. Il n'y a pas un patron d'une boîte, j'allais dire normale, mais petite, moyenne, grosse, qui n'ait pas envie de les payer plus. Quand il touche 100 euros, ça m'en a coûté 440. Donc c'est un problème aujourd'hui du fonctionnement et de l'utilisation de l'argent public de l'État. C'est un problème d'aides qui sont mal données, trop données. C'est un problème de pauvreté. Ça me dérange pas du tout les riches. Ce qui me dérange, c'est les pauvres. Vous avez raison, monsieur. C'est épouvantable que le salaire médian soit de 2000 balles. Pas possible. Et on ne fait rien pour ça. Et vouloir attribuer la faute à des patrons qui sont très payés, peut-être trop pour d'autres, j'en sais rien, c'est pas la solution.
Guillaume Robin, entreprise donc de 800 salariés, est-ce que vous avez une idée de la fourchette entre votre salaire, celui donc du PDG, et le plus bas salaire ?
Oui, parfaitement, c'est publié dans le rapport annuel. Vous savez, vous avez des ratios d'équité qui sont tout à fait précis à ce sujet. Alors je vais répondre à la question, est-ce que le salaire du patron de Stellantis est indécent ? Oui. Totalement indécent, et particulièrement le salaire de Monsieur Tavares. Il a fait un passage chez Stellantis relativement court. Mm-hmm. On voit aujourd'hui que ce qu'il a fait, c'était du court terme. On se retrouve avec une entreprise qui est en situation difficile sur le marché, avec un service après-vente qui a failli. Aujourd'hui, non seulement les actionnaires sont chocolat, mais également les salariés et le consommateur. Et Monsieur Tavares a touché des sommes totalement astronomiques. Donc, ma réponse, c'est clair, c'est indécent. Après, le nouveau patron a une rémunération qui est similaire. On verra bien ce qu'il fait. C'est, comme vous l'avez dit, le marché qui décide. Mmh. Et ce qui est particulièrement scandaleux dans l'histoire de Stellantis, c'est que le siège social est aux Pays-Bas.
Bien
ça
sûr.
Leur permet d'échapper à la loi.
Alors, on ne va pas cibler principalement sur le groupe Stellantis, mais néanmoins, eh bien, son ancien patron, Carlos Tavares, avait dit « Moi, je suis payé comme un joueur de foot ou comme un pilote de Formule 1, c'est contractuel. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, eh bien, vous faites une loi. » Eh bien, nous sommes en ligne avec l'homme qui a dit chiche. Bonjour Mathias Tavel, vous êtes député de la France Insoumise et vous avez fait une proposition de loi pour justement faire une fourchette. Alors une fourchette assez basse quand même entre le plus haut salaire et le plus bas puisque c'est de 1 à 20. Vous pensez vraiment que ça passerait ça, Mathias Tavel ?
Bonjour. D'abord, c'est passé en commission à l'Assemblée au mois de novembre dernier et maintenant nous allons espérer le faire inscrire à l'ordre du jour de la séance publique en hémicycle. Oui, nous pensons que c'est nécessaire, d'abord. Nécessaire par souci de justice, parce que quand on a des personnes comme M. Tavares, mais ce n'est pas une question personnelle, c'est une question de système.
Bien sûr.
Plusieurs grands patrons qui gagnent plus de 1000 fois, 1300, 1700 fois le salaire minimum ou le salaire moyen de leur entreprise. C'est d'abord une injustice pour les salariés de ces entreprises, une injustice pour l'ensemble des salariés à qui, encore récemment, M. Bayrou va demander des efforts de travailler gratuitement de jours fériés, d'être ponctionnés ensuite sur leurs arrêts maladie ou ce genre de choses, ou sur leurs achats de médicaments. Et il n'y a jamais d'année blanche pour les grands patrons ou pour les versements de dividendes pour les actionnaires. Nous sommes le pays record d'Europe du versement de dividendes. Mmh. Donc il y a un besoin de justice pour encadrer ce salaire. Maintenant, pourquoi la loi ? Pourquoi la loi ?
Est-ce à l'État de jouer les gendarmes, finalement ? C'est l'économie de marché.
Écoutez, ça fait des années qu'on nous a dit qu'il fallait laisser faire l'autorégulation, qu'il y avait un code de bonne conduite qui avait été conclu avec le MEDEF et la FEB, qui représentent les grandes entreprises, et que nos présidents de la République, M. Macron, M. Bayrou, Mme Le Pen, disaient que c'était immoral, que c'était choquant, que c'était indécent, mais qu'il fallait laisser, en gros, ce monde-là s'organiser, comme le disaient certains de vos personnes en plateau. C'est un système, c'est le capitalisme, c'est les actionnaires.
Bah, on a regardé le salaire de Kylian Mbappé, de Lewis Hamilton, et effectivement, c'est plutôt dans la fourchette basse. Alors pourquoi s'attaquer forcément aux dirigeants d'entreprise ?
Et je vais vous répondre sur ce point précis, mais d'abord constatons l'échec de l'autorégulation, l'échec de ces systèmes qui laisseraient les actionnaires décider. C'est un système qui produit du recul industriel, du recul dans l'investissement, parce que le but du chef d'entreprise ainsi rémunéré, c'est d'être le plus profitable, de dégager du cash pour les actionnaires, ce n'est pas d'assurer la pérennité de son entreprise et des outils de production.
Alors restez avec nous, Monsieur Tavel, restez avec nous, puisque là, effectivement, je vois bien que vos propos ont fait énormément réagir. Je vais passer la parole à Vincent Beaufils. Est-ce que c'est le but d'un chef d'entreprise, finalement, d'être cupide, de dégager de la valeur, surtout pour lui ? Je vous pose la question, c'est Mathias Tavel qui vous la pose.
Non. Bien sûr que la motivation de l'argent est importante, mais la motivation la plus importante, c'est la performance et la réussite. Juste un point par rapport à ce que disait notre interlocuteur. D'abord, 500 fois le salaire médian, ça suffit, c'est pas la peine de dire 1500 ou 1700 comme il l'a dit. Et l'année où Carlos Tavares a eu 500 fois plus que le salaire médian, il a aussi, je le dis pour mon ami de la CGT, il a non seulement gagné, mais distribué une prime qui n'avait jamais été aussi élevée chez Stellantis de 10 000 euros, je le dis au passage. Ce qui est moi je crois pas une seconde à la loi, et c'est d'ailleurs pour ça que Carlos Tavares avait évoqué la loi, parce qu'il savait très bien que ça n'avait aucune chance de passer, mais je reviens sur ce propos qu'a dit effectivement Guillaume Robin, de ce ratio d'équité qui, lui, est dans la loi Pacte et qui, à mon sens, le plus intéressant. C'est le ratio entre le salaire du patron et le salaire médian de la boîte. Vous prenez les grands patrons, ceux du CAC 40. Ce ratio médian, il va de 1 à 50 pour les patrons les plus raisonnables, même 40, à 1 à 500 pour ce que je disais tout à l'heure pour Carlos Tavares. Si vous prenez ceux qui sont les plus raisonnables, 1 à 40 avec l'incidence des impôts, ça fait 1 à 20. Et donc on n'est pas si loin de la proposition qu'évoquait le député, on n'est pas si loin de la situation que connaît le patron de Thermador en face de moi. Et donc moi je voudrais vraiment que ce ratio d'équité devienne quelque chose qui soit très important dans l'opinion.
D'accord. Alors si jamais
je me permets quand même, c'est que simplement donc pour le magazine challenge, il n'y a pas de problème finalement d'inégalité et tout fonctionne très bien puisque vous venez d'expliquer qu'après impôt, c'était une différence de 1 à 20, ce qui est totalement faux. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une méconnaissance totale de l'économie.
Pardonnez-moi, c'est pas faux. Si vous prenez le CAC 40 dans les patrons qui sont les plus raisonnables, on arrive à ce ratio de 1 à 20 après impôt. Ne dites pas que c'est faux, c'est la réalité.
Téléperformance, le PDG a gagné 1453 fois le salaire moyen de son entreprise. Et le patron qui est à côté de moi, il voit bien la situation ubuesque et la différenciation. Défendre simplement les CAC 40, le CAC 40 ou les PDG du CAC 40 disant qu'il n'y a pas de problème, etc. C'est, quand je vous dis c'est une méconnaissance de l'économie, c'est que...
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème,
je vais juste finir ma formule.
C'est pour vous dire,
en fait, l'économie de ce pays, elle est structurée sur la sous-traitance en cascade. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la concentration de richesse, elle est produite par les sous-traitants sur les donneurs d'ordre, par la sous-traitance en cascade. Et il y a une concentration de richesse pour les actionnaires, pour les dirigeants du CAC 40, de manière exponentielle, plusieurs centaines de fois par rapport au smicard de ce pays. On est en France, la deuxième économie européenne, seulement le 6e SMIC d'Europe, donc le SMIC est bas, pourtant notre économie est florissante par rapport à d'autres pays européens, et pour autant, on est champion d'Europe de versement de dividendes et d'accidents de travail. Il y a en fait une smicardisation du pays, un tassement des salaires, et puisqu'on a commencé par le salaire médian, en France il est 2200 euros, le SMIC à 1426, jamais le tassement n'a été aussi important.
À et cause des prélèvements, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Quand arrive 100 euros dans la poche du salarié et qu'on a versé 440, c'est bien le problème.
C'est complètement faux, madame.
Alors, on va rester sur le salaire des patrons. Je vous prie de m'excuser, mais il faut qu'on avance aussi dans la discussion. Et on voit bien quand même que le grand patron cristallise énormément de choses, et le salaire du grand patron, entre guillemets, moins d'un Français sur deux a une bonne opinion des chefs de grandes entreprises. En revanche, 4 Français sur 5 ont une image positive des dirigeants de PME.
Ils aiment leur boîte.
Voilà. Donc on va se demander effectivement si, en plus du salaire, le grand patron est assez patriote, assez philanthrope. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas admiré autant que, par exemple, aux États-Unis? Le débat continue après Damso et son titre « Qui m'a demandé ?»
Tu sais, moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Je cherche la paix un peu partout, guidé par le vent. Pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit, tu connais rien dans la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix d'y repenser, repenser, repenser. Moi je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le bleu. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà, est-ce que vous l'aimez? Vous êtes bien énorme et qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Les mauvais choix font que je déconne. Son bras petit feu, le désespoir résonne. Tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines, puis de confiance. Les conséquences saines de la méfiance saine, les cœurs mis en scène qui innovent. Qui m'a demandé ma permission de venir en mort? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? Si je pouvais me prononcer, je passe que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. La vie de rêve, la vie de...
France Inter. Le débat de midi.
Midi 23 sur France Inter, on est en train de débattre de la réussite et de nos grands patrons français. Sont-ils des monstres? C'est le titre de votre ouvrage, Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge,
de la publication de Challenge.
En face de vous, Thomas Vacheron de la CGT, Sophine Menton, chef d'entreprise, ainsi que Guillaume Robin, PDG du groupe Thermador. Alors, énormément de réactions sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000. Lou nous dit, pour moi, les chefs d'entreprise ont construit un empire. Ils ont travaillé pour en arriver là et je crois que beaucoup n'ont pas la force et le courage de se donner autant que pour créer une entreprise qui fonctionne. La jalousie est un vilain défaut. Ce à quoi Philippe répond, il n'y a pas que la hauteur des salaires qui soit indécente, mais également tout l'attirail juridique d'optimisation fiscale organisée pour contribuer le moins possible à la solidarité nationale. Jacques nous dit au contraire, eh bien, on critique le salaire des grands patrons qui créent de la valeur pour tous, alors que les footballeurs ne créent rien avec leur salaire indécent. Et Antoine s'est enregistré sur le WhatsApp de l'émission.
Quand j'étais adolescent, l'homme le plus riche du monde avait une fortune estimée à environ 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde a une fortune estimée à plus de 400 milliards de dollars. Bon, je veux bien ne pas être choqué ou scandalisé ou quoi que ce soit, mais dans ces cas, passer le SMIC à 10 000 euros.
Voilà, Antoine pose la question.
Volontiers.
Allez-y Sophie de Menton, répondez.
Non mais on est dans l'abstrait, on est dans des sentiments. D'ailleurs ils le disent bien, le sentiment que c'est trop élevé. Je peux très bien comprendre quand on voit un mariage à Venise d'un milliardaire américain, c'est du délire total. Donc on peut comprendre que ce soit choquant. Mais on a quand même un système et je ne connais pas de... On peut critiquer le système capitaliste, je ne connais pas qui marche mieux. Donc voilà, monter une boîte. Alors d'abord, il y a une différence aussi. Quand vous avez monté votre boîte, que vous faites une fortune colossale, que vous avez tout fait vous-même, c'est pas tout à fait la même chose que quand on prend un homme de très grand talent et qu'on le met à la tête de l'entreprise. Même si lui-même peut être capable de produire une richesse qui est tout à fait estimable. Donc là, je pense qu'il faut pas être là-dedans et que je pense que ce salaire minimum lui-même est dangereux. Trappe à bas salaire, on l'a dit. Parce que comme c'est dépourvu de charges, ben on n'augmente pas. Que effectivement, on n'arrive pas à payer plus nos salariés, je ne sais pas comment le dire, et parce qu'on a un État qui nous empêche de le faire, parce qu'on a un État qui donne trop d'aide. Oui, vous voyez, je le dis. Moi, je dirige aussi, vous ne l'avez pas dit, je suis chef d'entreprise, mais un mouvement patronal qui s'appelle
Éthique.
Oui. Et je pense que c'est fondamental de pouvoir être libre et manager son entreprise comme on le veut, et que plus on met d'astreinte, plus l'État veut donner, redonner, et souvent, il faut le dire, pourquoi est-ce qu'il y a des aides? Il y a des aides parce que tout d'un coup, ils ont tellement matraqué fiscalement, ils sont obligés de donner des aides pour que la boîte disparaisse.
Alors, je recentre le débat, par exemple. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ces images du patron de LVMH qui avait été reçu à la Maison Blanche, bras dessous, presque avec Donald Trump? Ça aurait pu être une fierté française, nationale, de voir notre milliardaire chaudement accueilli à Washington par le chef de la première puissance mondiale, Vincent Beaufils. Pourquoi est-ce que ça a été si mal pris? Est-ce que la France a un problème avec la réussite, les grands patrons en général?
Non, je pense qu'il y a un problème avec les patrons qui, en général, ne montrent pas tellement ce qu'ils sont, ne montrent pas tellement leurs émotions, et qu'en l'occurrence, Bernard Arnault s'est trompé de casting. C'est certain que c'était pas forcément très intelligent de se montrer avec Donald Trump à un moment donné où il n'en faisait que... il mettait le monde sans dessus-dessous. Donc je pense que, oui, moi j'aimerais bien que les patrons expriment davantage ce qu'ils font, mais là, il s'est trompé.
Moi, je trouve pas.
Quand même, je voudrais revenir quand même sur quelque chose, hein, c'est et faire la différence entre les entrepreneurs, à la différence de ce que disait notre auditeur tout à l'heure, et les grands patrons. On parle des grands patrons. Moi, j'ai aucun problème avec la fortune des entrepreneurs. Challenge vient de faire un numéro sur les 500 grandes fortunes de France. C'est pour nous un indicateur de réussite. Il y a un sujet que notre camarade de la CGT a évoqué tout à l'heure, c'est pourquoi en France, effectivement, on a ce sentiment que la richesse s'est accumulée dans les grandes entreprises. Et c'est vrai que les grandes entreprises françaises sont mondialement extrêmement performantes. Et pourquoi? C'est pas simplement pour ce qu'évoquait notre camarade de la CGT, c'est aussi parce qu'elles ont plus désindustrialisés que dans d'autres pays.
Ouais.
Figurez-vous qu'en France, on a des actifs des grandes entreprises du CAC 40 qui sont deux fois plus élevés que leurs homologues allemandes ou italiennes. Et qu'il n'y a pas ce même attachement au territoire français, qui est ce qu'on trouve beaucoup outre-Rhin ou en Italie.
Mais est-ce le rôle d'un patron, finalement, d'être patriote? C'est la question aussi que posait Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on fait passer en premier, finalement, son entreprise?
On fait penser sur sa patrie,
Guillaume Robin.
Et les salariés qui vont avec.
Je pense qu'effectivement, il y a des patrons qui sont patriotes et philanthropes. On peut citer, par exemple, les patrons d'EDF. Vous imaginez cette société, comme elle est difficile à diriger, les responsabilités endossées par ce dirigeant, et qui voit son salaire plafonné par la loi, puisque le patron d'EDF a un salaire plafonné à 450 000 euros. Alors, ça conduit à des aberrations, parce que au sein d'EDF, il y a des gens qui sont mieux rémunérés que lui, par exemple. On sait pertinemment que c'est pas du tout un salaire de marché. En l'occurrence, si vraiment c'était un salaire de marché, si on compare au salaire de la patronne d'Engie, par exemple, qui est une société un peu comparable, ça n'a rien à voir. Et les dirigeants qui acceptent finalement comme une mission de diriger des sociétés comme EDF, SNCF, la RATP, là, je pense qu'on peut quand même leur tirer notre chapeau, parce que ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour une rémunération qui, certes, est élevée, mais qui est très faible par rapport à ce qu'ils pourraient toucher ailleurs.
En fait, moi, ce que je voulais ajouter quand même sur la discussion, c'est qu'au-delà de la question du ressentiment, du sentiment, etc., c'est une question de justice sociale et d'équilibre dans la répartition des richesses. En fait, l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, il est créé par l'entreprise, qui crée la richesse de l'entreprise, c'est le travail, donc les travailleuses et les travailleurs. Qu'est-ce qui reste d'un côté pour les salaires, de l'autre côté pour l'investissement et enfin pour les actionnaires et les détenteurs de capital, PDG, etc., etc. C'est ça le sujet qui est posé. Donc la question, je redis, c'est pas une question philosophique, c'est pas le brio des gens qui fait qu'on monte la boîte et qu'on devient riche à milliards, c'est l'héritage. En France d'ailleurs, on voit qu'on est champion du versement de dividendes, comme je le disais, mais les grands chefs d'entreprise dont vous parlez, ce sont des familles d'héritiers systématiquement.
S'il vous plaît,
je ne vous ai pas coupé, pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc laissez simplement terminer. Vous êtes deux sur le plateau face à nous, donc on va essayer de finir. Moi, ce que je voulais dire absolument, qui est très important parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Les échelles dont on a parlé, bien sûr qu'il y a de quoi être révolté. Au-delà du sentiment, il y a des éléments factuels. Aujourd'hui, les 500 plus grandes fortunes, le titre de challenge c'était comment ils partagent le magot, sont aujourd'hui, l'évolution de ces 500 plus grandes fortunes, elles sont similaires avec l'augmentation de la pauvreté. Il y a un parallèle entre les deux. L'INSEE vient de sortir justement une étude qui montre que jamais la France, la partie des 20% les plus paupérisés sont si importantes, et de l'autre côté, des 500 plus riches, c'est-à-dire quelque chose d'epsilon aussi importante. Vous savez, je suis venu tout à l'heure avec un taxi, la dame qui m'a conduit, elle était obligée d'avoir deux boulots pour nourrir ses gamins. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre de son travail. Pas par magie, pas parce qu'on n'arrive pas à les payer, parce qu'il y a un accaparement de richesses pour quelques-uns au détriment de tous les autres. Et vous savez tout à l'heure pourquoi j'ai souri quand vous parliez des footballeurs, puisque c'était la question. La différence, ce sont des riches sans pouvoir, ce ne sont pas des riches qui exploitent, au-delà de ce qu'on peut penser sur les salaires. L'énorme différence, c'est que vous savez, nous en ce moment, on a des milliers de plans de licenciement. Et ce qu'on voit, c'est que les patrons, ils ferment la clé pour faire du profit s'ils le peuvent. Et j'ai cité des grands groupes. Et la dernière chose,
puis-je prendre un exemple, parce que
la dernière chose, c'est qu'un patron sans salarié, ça n'existe pas. Des salariés sans patron, ça existe. C'est comme ça qu'on monte des scopes.
Donc
très bien.
Sauf que, je prends l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, qui est celui de Michelin. Quand Michelin a dit qu'il songeait à fermer deux établissements en France, tout de suite, un ministre de droite, Premier ministre, Michel Barnier, dit « Oh là là, on va leur demander des comptes quand il fait des aides aux entreprises ». Et en réalité, il a oublié de dire quand même, et je vous le rappelle, parce que je pense que vos syndiqués doivent le savoir, que quand Michelin prend une décision de fermer une entreprise, tous les emplois qui ont été supprimés ont été retrouvés dans d'autres filières.
Écoutez, ma tante, elle était licenciée de chez Michelin. Vous savez de quoi vous parlez?
Prenez l'exemple de La Roche-sur-Yon.
Mais je vais vous dire quelque chose de plus important. Et on remercie France Inter de donner un peu la parole aux salariés. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire, c'est les éléments de communication des directions d'entreprise.
Prouvez-moi que les salariés de La Roche-sur-Yon n'ont pas retrouvé de travail.
Licenciés du jour au lendemain. lendemain, vous savez, il y a eu plusieurs vagues de licenciements et l'Auvergne a été une des régions les plus touchées par les choix de Michelin. Elles ont été licenciées du jour au lendemain. Elles m'avaient dit, j'ai jamais fait grève, j'ai travaillé comme une dingue, etc. Du jour au lendemain, licenciées. Et vous voulez que je vous dise, au-delà des 1000 licenciements annoncés l'année dernière, ils continuent. Je vous ai parlé du site de Blavozy au Puy-en-Velay, où il y a 45 emplois menacés au moment où on parle. Et donc, s'il vous plaît, en prenant des exemples, il faut être précautionneux sur la vie des gens qui le subissent.
Je vous parle de La Roche-sur-Yon. Et enfin, trouvez-moi un exemple où quelqu'un a été licencié du jour au lendemain sans être reclassé. Je ne travaille pas pour Michelin, mais simplement, j'écoute ce que l'on me dit et pas toujours.
Alors, on va reprendre la main sur ce débat et se demander effectivement s'il ne faut pas mieux encadrer les salaires, voire aller vers plus de transparence, par exemple, dans les salaires. Si je vous demande, là, autour de la table, combien vous gagnez ? Qui me répond ? Ça, c'est un peu... Voilà, c'est une question qu'on a du mal aussi en France avec. Il y a une forme de tabou. Eh bien, dans votre entreprise, Guillaume Robin, une fois par an, on affiche sur un mur tous les salaires de l'entreprise. Vous allez nous dire, eh bien, si cette transparence des salaires rime avec plus d'équité, plus de justice sociale, et si pour vivre heureux au travail, on ne vivait plus caché, on en débat avec Olivia Dean, Nice to Each Other.
Sur France Inter, on débat du salaire des grands patrons et surtout des grands écarts entre les salaires qui choquent les Français. Faut-il un encadrement ? Faut-il plus de transparence ? Merci, chers auditeurs, d'avoir été si nombreux à nous écrire au 01 45 24 7000. Myriam nous dit « Les grands patrons, on en a besoin et si on ne les paye pas, eh bien, ils partiront ailleurs. » Gérard nous dit « Il me semble que vos invités ont mis le doigt sur le fond du problème. Il s'agit bien de rémunérer correctement les salariés et de leur assurer un niveau de vie qui permette de vivre sans devoir en permanence tailler dans leur budget. » Et Sarah nous dit « Le problème, ce n'est pas les grands patrons. Le problème, c'est l'absence totale de démocratie. » Et c'est justement de ça dont on va continuer à parler avec vous, la chef d'entreprise Sophie Menton, Vincent Beaufils, auteur de « Les patrons sont-ils des monstres ?», le délégué CGT Thomas Vacheron et Guillaume Robin, qui teste dans son entreprise une forme de démocratie, peut-être, de transparence salariale, puisque une fois par an, les 821 salariés se réunissent pour consulter le document que tout le monde s'arrache, à savoir la grille complète des rémunérations. Du PDG au magasinier en bas de l'échelle, tous les salaires sont dévoilés une fois par an. Est-ce que ça crée des tensions, Guillaume Robin ?
Alors, je vais amener un petit peu de nuance à votre propos. D'abord, c'est pas moi qui ai imaginé cette politique, c'est le fondateur du groupe qui a créé ce groupe, cette société en 1968. C'est pas un hasard. Donc, il a voulu la transparence dans l'entreprise et il a poussé la transparence jusqu'à la transparence des salaires. Et donc, aujourd'hui, on continue à pratiquer ça, non pas à l'échelle de plus de 800 personnes, parce que c'est juste pas possible, mais à l'échelle des sociétés du groupe. Donc, une fois par an, on met au tableau les rémunérations de tous les salariés, de la filiale, y compris le dirigeant. La mienne est publique puisqu'on a une société cotée, donc il n'y a pas de secret. Et c'est un exercice qu'on fait, non pas sur un document papier, parce qu'on souhaite que cette information reste à l'intérieur de l'entreprise. Et certains des salariés ne souhaitent pas non plus que leur rémunération soit sur Internet, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Et il y a aussi une problématique de concurrence. Nos concurrents seraient très contents de savoir quelles sont les rémunérations dans le groupe Thermador pour éventuellement faire de la chasse à l'intérieur du groupe. Donc c'est transparent, c'est à l'intérieur, et c'est un rituel qui permet. Le gros avantage de la transparence des salaires, c'est la confiance. C'est qu'à partir du moment où vous êtes transparent, vous générez chez vos salariés un climat de confiance. Rien n'est caché. Et ça induit forcément plus d'implication et plus de fidélité. Nous, dans le groupe Thermador, on arrive à 9 ans d'ancienneté. C'est une moyenne. Et on souhaite absolument continuer à se bagarrer pour que nos salariés restent longtemps en entreprise et soient plus efficaces. Donc voilà, en quelques mots, le gros intérêt qu'on y voit.
Alors vous m'avez demandé pendant le 10 combien je gagnais moi. Je n'ai pas forcément voulu vous répondre parce que ça dépend aussi si on négocie bien aussi son salaire. Vincent Beaufils, ça serait possible au sein de la publication de Challenge de faire cette transparence salariale ?
Écoutez, on s'est posé la question parce que nos délégués nous l'ont demandé et on a dit non. On a dit non, on sait que globalement dans la rédaction de Challenge, entre le petit jeune qui sort d'école et moi, il y a une différence de 1 à 6, moi je l'assume très bien. Mais ce que je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a dit non, c'est pas pour ce 1 à 6, c'est parce que avec le même journaliste, la même expérience, le même âge, homme ou femme, il peut y avoir une différence de 1 à 2. Et ça, vous mettez ça dans une boîte, je ne sais pas comment on fait chez Thermador, mais c'est quelque chose qui est explosif dans un consensus d'entreprise. Et moi, je ne veux pas passer mon temps, en tout cas quand j'étais directeur de la rédaction, j'avais des entretiens individuels où j'exposais ça individuellement, mais je ne veux pas que devienne une cause collective, et je ne veux surtout pas un nivellement des salaires avec des échelles et des grades, etc. Chacun dans notre métier, c'est un métier créatif, il a la possibilité effectivement de mettre en avant son talent et effectivement de le vendre mieux que son voisin d'à côté. C'est la vie.
Sophie de Menton, 83% des Français sont favorables à une transparence total des salaires dans toutes les entreprises, c'est une revendication, il faudrait y aller.
Entièrement d'accord. On a là, y compris autour de cette table, le syndrome du mal français. On peut pas parce qu'il serait jaloux, et puis je comprends bien, et moi je gagne pas assez, je peux pas le dire, et par rapport à lui, et pourquoi ? Alors d'abord, il faudrait que vous sachiez quand même, parce que moi j'ai vraiment une entreprise qui est passée de 2 salariés à 1400, donc j'ai vécu le cours de cette entreprise. Je peux vous dire d'abord que dans les entreprises, tout le monde sait combien tout le monde gagne. C'est assez étonnant. Sauf, je suis d'accord, les dirigeants. Mais ils savent qui a été augmenté. Vous augmentez quelqu'un, vous avez 4 personnes devant votre porte le lendemain. Vous savez... Et d'ailleurs, il y a même un scandale. Moi, j'avais 2 secrétaires. Il y en avait une qui était formidable, qui était toujours qui anticipait tout, qui était géniale. Et une autre, rien à faire.
Elles étaient payées de la même façon.
Eh ben, j'ai voulu augmenter celle qui était bonne. Interdiction. À salaire égal, travail égal. Mmh. Et donc, ça fait partie... Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que récompenser le mérite, y compris à tous les niveaux dans l'entreprise, ça me semble logique. Je voudrais qu'on ait un peu de bon sens et qu'on arrête de s'agripper à des espèces de... Je comprends pas ce qui... Je comprends pas.
La question du mérite, Thomas Vacheron.
Pas la situation de millions de gens qui nous écoutent en ce moment.
Non,
la
chose est... vous non plus. Non,
mais attendez. Mais
non.
Mais c'est pas possible, en fait. Dès que je sors une phrase, vous me coupez.
Non, laissez la parole.
Le dialogue, c'est de s'écouter. C'est d'ailleurs une des premières qualités. Et donc j'étais en train de dire, les millions de personnes qui nous écoutent, elles sont assez scandalisées parce que leur niveau de vie n'est pas celui de celui que vous évoquez. Nous, on n'a pas de honte du tout. J'ai même, vous savez quoi, affiché ce qui est interdit par la loi sur mon panneau syndical, ma fiche de paye, pour dire une chose à mes collègues. Aujourd'hui, dans ce pays, on est 90% à gagner moins de 3200 ou 3500 euros net par mois, je ne sais plus la somme exacte. Et pourquoi c'est interdit? Parce que, justement, la transparence est interdite. Nous, on est pour. On n'a aucun problème à dire nos salaires, on n'a pas honte, parce que on travaille pour vivre, et c'est la seule source de rémunération qu'on a. Et le problématique en France, c'est de vivre de son travail. Et vous savez pourquoi il y a de l'opacité? Pas pour les éléments que vous êtes en train de dire, c'est que l'écart des salaires, l'écart des revenus est gigantesque, et c'est ça qui est un scandale. Pourquoi j'ai insisté sur le salaire médian et sur le tassement des salaires? C'est qu'on est de plus en plus nombreux à vivre chichement, à pas arriver à joindre les deux bouts, et de l'autre côté, c'est des courbes qui donnent le tournis tellement elles sont importantes, et c'est ça qui est scandaleux, parce qu'encore une fois, ce n'est pas de la jalousie, on insiste, c'est qu'il y a des profits accaparés par quelques-uns au détriment de tous les autres, c'est ça le nœud de l'affaire.
Guillaume Robin, je voudrais vous entendre sur un dossier en particulier, est-ce que ça aide à plus d'équité, d'égalité entre les femmes et les hommes?
Automatiquement, et ça met la pression sur les managers, parce que quand vous êtes en train de réfléchir sur votre grille de salaire, que vous avez une équipe à gérer, bah vous réfléchissez à deux fois avant d'augmenter X ou Y, parce qu'il faut être capable de justifier cette augmentation. Quand vous recrutez à l'extérieur, vous êtes obligé aussi de réfléchir, cette personne va intégrer mon équipe, tout est transparent, il va falloir que ça se passe bien. Et donc, ça met une pression positive sur les dirigeants, les managers, ceux qui embauchent, ceux qui augmentent les salaires. J'ajouterais également que c'est particulièrement favorable pour les femmes, parce que c'est aussi une façon de mettre sur la table les rémunérations hommes-femmes d'une manière tout à fait transparente.
C'est obligatoire.
Alors, l'inconvénient que ça peut présenter, c'est que on recrute pas de star mondiale dans le groupe Thermador. Si quelqu'un arrive en disant je suis une star et je vaux deux fois le prix de Paul ou de Jacques, on lui dit bah écoute t'es sans doute une star, mais pas chez nous. Je suis désolé, on préfère jouer l'équipe.
Mais vous vous privez pas de talents exceptionnels, de gens qui ont une grande vista pour
on
faire décoller Thermador,
exceptionnels, mais qui ont des rémunérations raisonnables. Les ratios d'équité dans le groupe Thermador, en fonction de qu'on se situe sur le médian ou sur le moyen, sont de 6 ou 7. Quand vous m'avez posé la question sur la rémunération sur le, par rapport au SMIC, ma rémunération, c'est sur une échelle de 16. Donc on n'est pas loin du 20 qui a été évoqué.
Alors je rajoute que l'Europe va s'y mettre à cette transparence salariale. Une directive sur la transparence salariale vient d'être adoptée pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Et que dès l'année prochaine, les entreprises de plus de 100 salariés devront publier leurs écarts de rémunération. Donc on y viendra a priori. Merci infiniment d'avoir débattu sur ce plateau. Vincent Bossis, merci. Je rappelle votre livre « Les patrons sont-ils des monstres ?» aux éditions de l'Observatoire. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Entreprise de taille humaine indépendante et de croissance. Merci d'avoir été avec nous. Thomas Vacheron, délégué confédéral de la CGT. Guillaume Robin, PDG de Thermador, donc qui initie. J'imagine que beaucoup de nos auditeurs ont été intéressés par votre transparence salariale dans l'entreprise. Merci à tous d'avoir débattu. Le débat de midi, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient dès lundi à midi. Merci à mon équipe, Aurore Mansip, Johan Duval, nos stagiaires, Anna Ebalista et Ryan Saibi. À la réalisation, c'était Riyad Kera, à la programmation musicale Valentine Chedebois et à la technique aujourd'hui, c'était Ludovic Asselot.